Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, je vous propose cette fois-ci une promenade où il est question d'écologie et d'émerveillement, de poésie et d'environnement, de réveil de nos imaginaires et d'action, le tout sur les pas du Petit Prince. Oui, oui, celui de Saint-Exupéry. Ça s'appelle « Dessine-moi ta planète ». C'est composé d'un beau livre publié par Actes Sud et d'une exposition en plein air, un voyage sensoriel, pédagogique et écologique. Et là, je ne fais pas que vous donner les mots du dossier de presse, puisque je viens de parcourir cette magnifique exposition au domaine de la Bourdaisière à Mont-Louis-sur-Loire, en Indre-et-Loire. C'est à 55 minutes de Paris en TGV. Et c'est aussi une rencontre entre le Petit Prince et les planches d'Hérol. Tout le monde ne connaît pas forcément les planches d'Hérol. Nous allons expliquer ce que c'est un petit peu plus tard dans l'interview. Et pour nous parler de toute cette aventure, je rencontre aujourd'hui sur place au domaine de la Bourdaisière, Louis-Albert de Breuil, propriétaire du château de la Bourdaisière et de la maison d'Hérol et initiateur de ce magnifique projet. Bonjour Louis de Breuil.
Bonjour chère madame.
Pour donner quelques repères déjà, donc l'exposition « Dessine-moi ta planète » a été inaugurée le 29 juin, au moment où nous enregistrons, nous sommes mi-juillet 2021, et fête un double anniversaire, les 75 ans du Petit Prince et les 190 ans de d'Hérol. Le livre « Le Petit Prince » est en chiffre 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 14 millions en France, et c'est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde. Autant dire que ça a une portée universelle et que ça touche beaucoup de monde. Il a été écrit donc par Antoine de Saint-Exupéry, bien sûr, illustré par ses propres aquarelles. Dessine-moi ta planète. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Chère Anne, merci de cette belle introduction. Comme vous l'entendez derrière nous, c'est un monde vivant. C'est une ruche ici, c'est un laboratoire, la Bourdaisière, où nous avons créé, il y a 30 ans, ce qui est devenu le Conservatoire National de la Tomate. Nous avons créé le premier mouvement de micro-ferme avec Ferme d'Avenir, un festival de la forêt. Et effectivement, quand vous parlez de la maison d'Hérol, j'ai acheté il y a 20 ans la maison d'Hérol pour mieux comprendre et mieux expliquer ce qui est l'ADN de d'Hérol depuis près de 190 ans, vous l'avez dit, expliquer la terre au plus grand nombre, mais aussi expliquer comment préserver la terre. D'Hérol a été partenaire officiel de la COP21. D'Hérol a réédité des planches et créé des nouvelles planches sur tous les enjeux environnementaux et sociétaux. D'Hérol est une maison aussi qui invite des artistes depuis les surréalistes jusqu'aux plus grands artistes contemporains. D'Hérol a eu un incendie qui a dévasté ce musée au 46 rue du Bac en 2008 et a exprimé dans un cri du cœur cette maison qui, encore une fois, aurait pu disparaître, la notion de résilience, la notion, j'allais dire, d'un phénix renaissant de ses cendres. Et nous avons réouvert et l'ensemble des publics qui venaient depuis toujours chez d'Hérol ont compris que cette maison était différente. Ce cabinet de curiosité qui exprime la diversité végétale, animale, minérale du monde entier, elle exprime avant tout cette capacité d'observation. Quand vous me dites « c'est quoi, dessine-moi ta planète ?» Eh bien, c'est une, comme le texte du Petit Prince, qui est une formidable leçon de philosophie. Si on sait lire, j'allais dire, le texte comme il a été écrit, mais en même temps le texte dans sa signification profonde, celui d'un aventurier de l'aérospatial, Antoine de Saint-Exupéry, c'est une ode à l'observation, à la compréhension que le monde dans lequel nous vivons est une grâce, j'allais dire, de cette poussière céleste dont nous sommes tous faits. C'est le seul endroit dans le cosmos où l'on connaît la vie comme elle existe aujourd'hui. Et en même temps, nous sommes tous, collectivement et individuellement, j'allais dire, des inconscients. On n'est pas capable de comprendre notre chance et en même temps, on sabote la terre de nos enfants. Nous n'héritons pas de notre planète, nous l'empruntons à nos enfants, disait Saint-Exupéry. On est véritablement dans une ineptie où seule une nouvelle narration de l'écologie peut peut-être faire prendre conscience avec l'universalité de ce texte qui est celui du Petit Prince, l'universalité de ce personnage, avec évidemment cette éducation et avec aujourd'hui ces défis monstrueux que nous connaissons, eh bien, le « dessine-moi ta planète », c'est un cri du cœur. Mais c'est aussi pas le « dessine-moi un mouton » qu'on va barrer, on va dire « dessine-moi ta planète », c'est véritablement de dire « mais ta planète, elle ressemble à quoi aujourd'hui ?» Et c'est pas une écologie, j'allais dire, anxiogène, politique, destructrice, c'est celle du partage, de l'humanisme, du bonheur. Et c'est ce cri du cœur qui doit dire, mais finalement, apprends à ouvrir les yeux et tu vas voir, il y a plein de très belles choses autour de toi. Mais ce sont les enfants, là, qui vont parler aux parents.
Alors le livre, comme l'exposition d'ailleurs, est découpé en 10 parties. Et l'exposition qui est un parcours, un voyage initiatique, comme vous me le disiez tout à l'heure en m'accompagnant, pour découvrir ce magnifique parcours. Donc 10 étapes. Quelles sont ces 10 étapes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à quoi elles correspondent, puisque c'est vraiment la trame et l'essentiel du message de fond?
Alors, les 10 étapes, ce sont 10 postures, ce sont 10 immersions, pardon, dans une installation qui est aussi bien poétique que pratique, et qui doit nous inspirer sur ce que la Terre peut nous enseigner. La première, évidemment, ça s'appelle « La nature est une aventure ». La nature est une aventure, en quelque sorte, c'est d'apprendre à comprendre et à observer le territoire dans lequel on vit, où l'on se rend, où on part en vacances. Apprendre que tous les territoires sont singuliers par leur patrimoine matériel et immatériel, leur tradition, leur architecture. Et donc, c'est apprendre à être curieux. Saint-Exupéry était curieux, ce sont des alcôves, des petits cabinets de curiosité. Évidemment, on découvre la vie de Saint-Exupéry, on découvre le Petit Prince, on découvre évidemment le cabinet de curiosité de Dérolle, on découvre la salle de classe de Dérolle, on découvre ce qu'ici est la particularité de ce territoire. Mmh. Territoire à 2 classements de l'UNESCO, un, le Val-de-Loire, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, et le repas gastronomique qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, cette exposition d'ailleurs qui est sous le haut patronage de l'UNESCO, il faut observer son territoire. C'est le premier enseignement. Et on rentre, encore une fois, dans un deuxième étage des souterrains sous le château, et là on découvre 2 installations avec un extrait du film du Petit Prince, un film d'animation, et c'est tout à fait poétique.
Dans la terre, là, dans le rocher, dans les caves.
Dans le tuf où on s'abritait au XIVe siècle des invasions. Et là, eh bien, on sait très bien que quand on va au profond des entrailles de la terre, on a toujours un enseignement. Et l'enseignement, c'est le Petit Prince qui va commencer à nous le donner.
Oui. Donc pour ces 10 parties, donc la première, c'est la nature.
La deuxième, c'est l'inattendu.
Voilà.
L'inattendu, c'est quoi? C'est évidemment la beauté du monde, c'est l'émotion, un coup de cœur, mais ça peut être une tragédie, ça peut être une pandémie, ça peut être un désordre climatique violent. Et donc, c'est nous apprendre à nous adapter, nous apprendre à faire en sorte d'être résilient, de comprendre que le monde recommence et qu'il faut effectivement comprendre que tout ce que la Terre nous a donné, c'est la beauté, c'est l'espoir, et encore une fois, il faut le cultiver. Et là, vous avez cette extraordinaire installation qui n'est autre que la nef numéro 7, la travée numéro 7 de la nef de Notre-Dame de Paris, faite par les Compagnons du Devoir, en maquette, en 7/10, donc c'est quand même très important, ça fait 10 mètres, 7 mètres, 6 mètres de l'eau. Et en même temps, ça exprime l'incendie et la tragédie de ce feu qui a détruit en partie Notre-Dame, qui en même temps exprimait toute la spiritualité, l'universalité du catholicisme, de la chrétienté. Et en même temps, c'est le geste des compagnons qui vont refaire avec les mêmes savoir-faire, ces travées et cette nef. Et donc, c'est la rencontre entre la tragédie et l'espoir.
Voilà. Et on peut même se reposer en hamac.
On peut se reposer en hamac en écoutant des chants grégoriens.
Voilà. L'étape 3, donc, la maison commune.
Alors, l'étape 3, la maison commune, c'est l'oïkos. C'est ceux qui ont lu l'encyclique du pape Laudato Si. C'est véritablement, comme disent les Grecs, donc, c'est le lieu commun où on vit, où on grandit, où on a sa famille. Mais c'est en même temps, et c'est important de s'en souvenir, c'est le lieu qu'on doit préserver, comme on doit préserver ses souvenirs. Et dans le cadre de la maison commune, c'est effectivement la maison bas carbone. C'est la maison, on va dire, frugale, où l'hygiène de vie, c'est aussi de comprendre qu'on peut se nourrir avec peu de choses, on peut vivre avec peu de choses. Et donc cette maison est 100% bois, à 2 étages, et elle est surplombée par le mont Théodore. C'est comme un village, qui est une œuvre d'art de 25 mètres de hauteur, un tumulus, avec une barrière en plaissage faite par un grand artiste. Et le mont Théodore, qui est le sens de la vie, nous permet de prendre de l'altitude, de regarder la canopée, et de nettoyer, de prendre soin de sa planète. Il y a des balais, les enfants peuvent faire la toilette de la planète, mais surtout, encore une fois, à apprendre à regarder avec un peu de hauteur, et en même temps, quand on a été dans les caves, on est au cœur du parc de la Bourdaisière, et on voit au loin des œuvres d'art, et notamment un séquoia sculpté.
Oui, il y a plusieurs séquoias, il y a des arbres magnifiques, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une nature riche et généreuse, dans un calme extraordinaire, c'est reposant, c'est apaisant. Donc ensuite, on a l'étape 4, la faune.
Alors l'étape 4, la faune, évidemment, c'est l'étape où on apprend que tous les écosystèmes sont liés. Animal, végétal, que la terre est évidemment porte toute la fertilité, la richesse qui, avec d'autres éléments, nous permettent de respirer, de vivre. Et donc, cet écosystème, c'est la faune, c'est la flore, et la faune, elle est représentée par un boa de 90 mètres de long, qui évidemment avalait un éléphant. C'est une œuvre prodigieuse, prodigieuse, faite par deux artistes, Paco Lorazer et Marc Averly, et il faut rentrer dans la gueule du boa et comprendre que l'éléphant est au fond de la gueule du boa. Mais c'est très très beau. Et encore une fois, ça symbolise
tout ça en bois, hein, tout est organique, avec
des tonnes de bois morts, oui, qui sont des bois récupérés dans le parc. Ce sont des bois de châtaignier, donc imputrescibles. Et on a l'impression que ce bois est un vaisseau viking qui plonge dans le sol, qui ressort et qui nous amène dans un terrier et qui nous ramène évidemment à cette idée que cet écosystème animal et végétal, eh bien, c'est extraordinaire, c'est d'une grande beauté, d'une grande richesse, mais c'est grâce à cela que la vie existe.
Voilà, les écosystèmes et l'interdépendance donc de tout ça, un thème qui m'est cher sur Sauce Suite Planète, qu'on a décliné dans de nombreux podcasts, hein, au travers avec plusieurs personnalités, dont des personnalités qui sont aussi dans le livre, on va en parler. Alors 5, le temps.
Le temps. Alors le temps... Tout ça, évidemment, dans Le Petit Prince, tous les thèmes sont interliés. D'ailleurs, quand vous arrivez à une étape, vous appuyez sur un bouton et il y a une jeune voix d'enfant qui fait le lien entre l'étape et le texte du Petit Prince et la planche pédagogique qui a été faite pour nous expliquer comment le Petit Prince navigue dans l'iconographie de Terol. Eh bien, le temps, évidemment, c'est le temps de l'aviateur qui n'a que 8 jours pour vivre et pour refaire reprendre, parce qu'il a un problème d'eau, on en parlera après. C'est le temps qu'il est urgent de prendre pour pouvoir observer, pour pouvoir comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller. Là, on est dans le rousseauisme. C'est le temps de s'asseoir sur un banc qui fait 30 mètres de long, qui est une œuvre d'art faite avec un set tombé du parc pendant la tempête d'Intia. Et c'est le temps que tu prends pour la rose qui est si important et qui fait ta rose si importante, pardon. Et c'est le mot de Saint-Exupéry, oui. Et c'est le mot du Petit Prince.
Alors, si se cultiver son jardin.
Cultiver son jardin, c'est pas la Baudière qu'on dira le contraire.
Oui.
Cultiver son jardin, c'est apprendre effectivement qu'il est urgent au sens propre de cultiver cette terre et la rendre évidemment, elle est fertile, généreuse grâce au choix des variétés de fruits, de légumes, mais que tout ça se fait grâce évidemment à la rencontre entre l'air, l'eau, dont on parlera, les pollinisateurs. Très important. Et on parle beaucoup là de pollinisation parce que c'est un des éléments de la vie qui est fondamental. L'effondrement des pollinisateurs dans le monde montre à quel point tout ça, ce sont ce qu'on appelle les services gratuits, les services offerts par, j'allais dire, la Terre. Et ces externalités positives de la Terre, eh bien, ces services écosystémiques, eh bien, ils sont aussi fragiles.
Et donc l'eau, dans la suite logique, le
alors,
7,
dans la suite logique,
étape 7 de ce voyage initiatique.
L'eau Saint-Exupéry dit au Petit Prince, je n'ai de l'eau que pour 8 jours, puis 6 jours. Donc l'eau, c'est la vie, on le sait, mais l'eau dans le désert, c'est déjà la contemplation de la mort si on n'a pas d'eau. Et donc ça nous parle des états de l'eau, car on ne se souvient pas, mais l'eau qu'on boit, ce n'est pas uniquement de l'eau des dinosaures, parce qu'ils ont 65 millions d'années ou un peu plus, mais c'est l'eau de 4,5 milliards d'années. C'est l'eau qui est un cycle permanent et on écoutera dans des trompettes à côté une installation à côté de cette étape tous les états de l'eau.
Et comme dans le livre, on va en reparler un petit peu plus tard des auteurs et autrices engagés ont chacun apporté leur contribution avec chacune un très beau texte et l'eau, c'est Colline Serrault qui s'y est mise, et on va en reparler.
Chère Colline.
Oui. 8, le lien social, très important.
Alors le lien social, on le connaît chez le Petit Prince, avec évidemment cette rencontre avec le renard.
Oui.
Le renard qui parle au Petit Prince et qui lui dit que sur Terre, évidemment, parce qu'il arrive sur Terre, les gens s'ignorent, les gens ne se parlent pas, ils sont pressés. Et donc là, nous avons inventé une étape avec 10 confidents, 10 fauteuils. Les confidents, c'est des fauteuils en vis-à-vis et on peut se parler, on peut se faire des confidences. Et en fait, sur les fauteuils, sont découpés sur les dos des fauteuils 6 mots, 3 mots qui viennent du texte du Petit Prince, 3 mots qui viennent des textes de Desrolles. Chaque étape d'ailleurs, sur chaque planche, il y a 3 mots qui viennent. Donc il y a 60 mots en tout. Il y a 10 confidents, 60 mots. Et donc on encourage les gens à s'asseoir et à s'asseoir avec un inconnu, choisir un mot, et se parler. Et apprendre à se parler, et apprendre à écouter les autres, et apprendre ce qu'on appelle l'altérité, la différence.
Et ensuite, l'étape 9, l'espace.
Alors d'abord, on a un livret pédagogique.
Oui.
Donc si on est sage, on a rempli le livret pédagogique, qui est formidable, avec un jeu de pistes. Et ce jeu de pistes nous permet de s'arrêter à la boutique, et de se faire donner un cadeau quand on a trouvé... au cœur du jeu de piste, les mots qui sont importants ici. Et donc, effectivement, ensuite, on va à l'étape 9. Et l'étape 9, c'est l'étape de l'espace. L'étape 9, c'est l'étape où, finalement, on s'aperçoit que quand on rentre dans le système solaire, parce que c'est la première introduction avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute, ce système solaire, eh bien, il est incroyable parce que la Terre est à une distance du Soleil qui fait que ce miracle... j'allais dire, totalement improbable, qui se calcule en milliards de milliards de milliards d'improbabilités, eh bien, on a la vie et on se parle aujourd'hui. Mais en même temps, on apprend que ce système solaire, comme il y a d'autres systèmes solaires, dans le cosmos, il n'y a pas d'autres planètes Terre, il n'y a pas d'autres planètes où il y a la vie. Et donc, on traverse là et on va voir une autre installation qui sont les planètes, les astéroïdes qu'ont traversé le Petit Prince. Et donc ça, c'est très poétique, c'est très amusant, mais ça nous rappelle avec un joli texte, j'espère, que la planète, elle est encore une fois fragile. Elle est belle, elle est unique, mais elle est fragile.
Et il faut en prendre soin.
Il faut en prendre soin.
Et donc l'étape 10, l'imaginaire.
Alors quand on a appris qu'on pouvait regarder pendant les 8 premières étapes d'une autre manière la beauté, j'allais dire, de notre Terre, de nos écosystèmes, de la façon dont on peut s'émerveiller, douter... mais en même temps être résilient, en même temps apprendre à écouter, apprendre à voir, apprendre à observer, apprendre à s'émerveiller, eh bien on a compris aussi que la Terre était unique, donc il est urgent de savoir ce qu'on veut faire avec la nôtre. Et donc on encourage les enfants, les parents, à, devant cette boîte, la fameuse boîte de l'imaginaire, dessine-moi un mouton, barré qui devient dessine-moi ta planète, à dessiner leur propre planète et la poster.
Il y a déjà des choses dans la boîte à lettres ?
Il y a énormément de choses dans la boîte à lettres, mais on attend la fin de la saison pour ouvrir la boîte à lettres quand elle sera pleine. Et dans cette boîte à lettres, d'ailleurs, on a d'abord la grande boîte de l'imaginaire, qui est une boîte qui fait quand même 4 mètres ou 5 mètres sur 2,50 mètres. Et on pose l'oreille, on regarde dans les trous, on voit des tas de lumières scintiller et on entend Gérard Philippe nous raconter Le Petit Prince.
Et oui. Donc dans la préface du livre, hein, parce que le livre, il faut qu'on en parle aussi, ce livre magnifique avec des planches, des rôles, magnifiques aussi pour l'imaginaire, ces planches qui illustrent chacune des 10...
Donc là, c'est étape, posture.
Oui, étape aussi, oui. Il y a des extraits à sur chaque étape, un extrait du Petit Prince. Il y a un texte d'un auteur qui correspond à chacune des parties, des étapes. Et donc, dans la préface de ce livre, vous écrivez « Petit Prince, tu poses les questions que l'homme ne se pose plus, car la curiosité échappe à celui qui pense tout savoir. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. Nous sommes pétris de convictions. Et dans nos convictions, on imagine, évidemment, que tout ira bien. Que dans ce que j'appelle les tourments de notre société, c'est-à-dire l'extrême consommation, le besoin sempiternel de vouloir plus, alors qu'on peut vivre comme on a vécu pendant des siècles, avec, j'allais pas dire peu, parce que évidemment beaucoup de gens vivent avec très peu aujourd'hui, mais ce qu'on voulait en plus était très souvent issu des arts, des lettres, de l'architecture. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est des objets qu'on jette. Et donc cette conviction que tout le monde a, c'est que ça n'a pas d'importance. Et quel que soit le niveau de, j'allais dire, de compréhension, d'intelligence, que celui qui pense qu'en achetant un objet lambda, il ne fait pas autre chose que de convaincre ceux qui savent qu'il faut arrêter de vivre comme cela. Et cette conviction, eh bien, il faut qu'elle soit éclairée par de l'action, par des exemples. Et donc, effectivement, pour moi, on a tendance à vouloir tout savoir, à penser tout savoir, mais ne pas savoir l'essentiel.
C'est essentiel qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, selon le Petit Prince. Et alors, cette exposition, donc, elle invite enfants et adultes à s'interroger sur les bienfaits de l'écologie positive. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer ce qu'est l'écologie positive ?
Bien sûr, l'écologie positive, c'est tout sauf l'écologie punitive, l'écologie politique, rébarbative, l'écologie, j'allais dire, catastrophiste. Cette écologie où on vous promet effectivement l'apocalypse, même si l'apocalypse, ce n'est que l'expression du renouveau. Donc, dans le fond, on s'apercevra que cette écologie positive, ça doit être l'écologie, comme je le disais tout à l'heure, du partage, des solutions, de l'humanisme, de la générosité, de la sobriété, de l'émerveillement. C'est l'écologie où on se dit, tout ce que l'on a autour de nous, c'est formidable. Comment le cultiver et comment ça peut nous enrichir ? Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait, finalement, 10 euros pour passer toute la journée et éviter d'aller dans un supermarché faire des courses de trucs dont on n'a pas besoin, c'est pas si mal. C'est ça l'écologie positive. C'est finalement de se dire que dans la nature, les promenades, ça coûte pas cher, souvent ça coûte rien du tout, mais ça nous ressuscite. Voir toutes les études qui ont été faites, le film Natura de Pascal Derme, le documentaire, ça nous ressuscite.
Et surtout, là, je pense que beaucoup de gens en ont pris conscience avec nos 3 confinements déjà, suite à cette pandémie de coronavirus, 3 confinements, et on sent que beaucoup de gens ont senti le besoin de se reconnecter à la nature. alors que ça paraissait une préoccupation un peu, comme dirait Marie-Monique Robin, un peu bobo écolo. Et en fait, non, c'est vital, quoi. Maintenant, ouais. On s'aperçoit enfin que c'est vital. Donc, dans les enjeux de l'écologie positive, dans le petit texte de présentation que j'ai eu, il y a 8 points, en fait, qui sont, je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous les lire, qui sont vous les connaissez, puisque
c'est
vous
qui les avez. Ah oui, bien sûr, c'est moi qui les ai écrits.
Voilà, pour...
Donc, dans l'écologie positive, se reconnecter à la nature. Voilà. C'est un sujet évidemment majeur, étant donné qu'on est totalement déconnecté, on est des animaux de ville, on est des animaux qui ne comprennent même pas comment se nourrir. J'ai planté un potager au pied de l'immeuble de l'UNESCO, que j'ai dessiné, sous forme d'un ADN. C'est d'une telle richesse, on a 200 plantes différentes qui viennent du monde entier. Le chef me disait, mais pour moi, ces quelques plantes, ça fait tout ma cuisine, indépendamment du morceau de viande ou de le poisson, ou peu importe ce que, les œufs, ça donne toutes les saveurs. Reconnecter à la nature, c'est réapprendre aussi à vivre avec cette belle nature. Retrouver l'émerveillement de la vie sur notre planète, évidemment. L'émerveillement, c'est, vous l'avez dit, en regardant un papillon, c'est beau, on s'émerveille, et en même temps, on passe à côté de si nombreuses richesses. On cultive 700 variétés de tomates à la Brodésière, tout le monde pensait qu'elles étaient rouges et rondes et sans saveur, elles ont toutes les formes, toutes les tailles et tous les goûts. Apprendre en famille, à prendre soin de la terre et des hommes.
Et donc, et par rapport à ces tomates, donc, vous ne souhaitez pas qu'on mette des brevets sur le vivant, si j'ai bien compris.
Je ne supporte pas. Enfin, d'abord, il faut être raisonnable. On peut mettre du brevet sur un certain nombre de choses quand il y a vraiment de la recherche. Mais dès lors que ce sont des variétés qui sont anciennes, on n'a pas à nous dire qu'on ne peut pas les cultiver en nous expliquant que ça, c'est un poison si on n'a pas fait, une analyse... physiologique, chromosomique de la plante, c'est des balivernes. Les variétés anciennes sont bien plus nutritives et gustatives, et nutritives encore une fois, que ça va là pour aussi pour les pommes, pour les pois et tout là, que les variétés nouvelles. Maintenant, on peut avoir des variétés très intéressantes qui sont le produit de la recherche, et je ne suis pas contre, mais ça ne doit pas être le modèle dominant. Apprendre en famille, apprendre soin de la terre et des hommes, c'est un pacte avec la nature, c'est une volonté commune, ça ne peut pas être sur les épaules d'une génération qui arrive en disant ils se débrouilleront seuls. C'est une absurdité. Et c'est un mensonge que d'entretenir le fait que les générations futures sauveront les générations passées. Ça peut être très violent. Et la violence, elle est insupportable, surtout pour les plus fragiles. Et donc, quand il y a un traumatisme qui soit climatique avec ce qui s'est passé récemment en Allemagne, en Canada, en Chine, on s'aperçoit encore une fois que l'effet d'emballement, ça doit faire prendre conscience que c'est un pacte de tous, et ce n'est pas uniquement pour nos enfants. Faire de notre responsabilité un moyen d'action pour l'avenir. Nous sommes irresponsables, on doit être responsable. La responsabilité individuelle est tout aussi importante que l'irresponsabilité collective. Donc on doit être responsable individuellement et collectivement. Favoriser l'action globale en faveur d'un monde plus raisonnable. L'action, j'allais dire, globale, c'est un discours, c'est une posture, c'est vraiment une narration. Aujourd'hui, on nous parle de Green Deal européen, on nous parle de Green Deal national. C'est global par définition. On ne peut pas dire, c'est bien l'action locale, c'est fondamental, ça commence par l'action locale. Mais avoir une pensée globale. Devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique. Bien. Je suis un très mauvais exemple parce que je voyage.
Mais juste pour revenir sur le.
L'action
ça me prend un
globale.
Peu de temps, mais par rapport au Green Deal, peut-être que vous pouvez justement nous dire sur ce point le label sur lequel vous avez travallé par rapport à ça.
Absolument. Alors nous avons travaillé chez Derol.
Il faut montrer que vous avez du
bien
concret.
Sûr. Bien sûr, nous avons travaillé sur Derol sur des piliers qui sont ceux de cette institution nature, art, éducation. Nature, c'est préserver les écosystèmes. Créer des écosystèmes nourriciers, apprendre à observer la nature et les bienfaits de la nature. L'art, c'est faire en sorte de bien mesurer que le patrimoine matériel et immatériel, il faut le connaître, il faut le défendre, l'architecture singulière des territoires. Bien évidemment, élever les sciences naturelles au rang d'art, ce sont les musées autour des sciences naturelles qui travaillent avec l'art contemporain et qui permettent de créer un langage intergénérationnel. Et la nature et l'éducation, c'est l'innovation, au sens qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus performants dans la décarbonation de nos économies. C'est la transition, passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et la transmission, c'est toute la notion philosophique. On a créé un label à la demande de deux institutions, publiques françaises. Un label qui a deux ambitions, celle de répondre à la création d'écosystèmes bas carbone en lien avec les objectifs 2030 et 2050, qu'on connaît maintenant partout dans le monde, et évidemment répondre aux ambitions, aux aspirations des usagers des écosystèmes. Quand vous créez un nouveau quartier, une ville, un îlot, un projet, vous avez des attentes des usagers qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui sur ces fondements environnementaux et sociétaux. Ils veulent des jardins partagés, ils veulent des matériaux biosourcés, ils veulent une écomobilité facile, et ils veulent de la frugalité, ils veulent plus d'intelligence, ils veulent... Voilà. Donc tout ça, c'est les attentes. En même temps, on va avoir énormément d'argent distribué, surtout avec ce qui se passe après la pandémie. Il faut une contrainte, il faut des contraintes. Ça va être les contraintes, ça va être effectivement notamment des labels. Et ce label veut faire partie des labels contraignants de cette nouvelle économie, de cette distribution tout à fait importante d'argent qui va se passer dans le monde entier.
Voilà, pour que ça parte pas n'importe comment.
Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai lu que vous vous occupiez d'un nouveau quartier à Versailles.
Alors, on a, pour la société 4, qui nous a demandé de dessiner au sens de la philosophie d'un quartier. Donc nous l'avons fait, nous avons gagné le concours, et c'est le 9e quartier de Versailles avec la société ICAD, avec un cabinet d'architectes, et nous avons effectivement conçu un écosystème très transversal, nature, art, éducation, qui va être labellisé, on l'espère, il sera le premier labellisé.
Et donc là, c'est à quelle étape c'est sorti,
ça va sortir terre, ça va commencer à la fin de l'année prochaine.
D'accord.
Les permis de construire étaient déposés cette année, donc ça a pris un peu de temps avec le Covid et les élections, mais globalement, on y est presque.
Bravo.
Oh bah c'est 21 hectares, c'est 600 logements, c'est très important, mais bon, c'est pas bravo parce que c'est pas fait, ça va être fait, c'est plein d'embûches, plein de... Voilà, et souvent la réalité nous rattrape, et les bonnes intentions, c'est comme en enfer, c'est pavé,
oui.
Voilà, et après, on fait pas tout ce qu'on devrait faire. C'est mais donc, sûr. C'est tout l'enjeu aussi de Dérol, qui est ce qu'on appelle assistant en maître d'ouvrage, et qui est aussi garant de la gouvernance, et donc voilà, on espère être à la hauteur du sujet. Un ouvrage d'ailleurs sortira chez Gallimard sur ce nouveau quartier.
On a fini les
tirets. On continue, non ? Devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique, ben, on vient d'en parler, c'est plus de frugalité, moins de consommation dont on pourrait se passer. C'est less is more. Et bien sûr, on est plein de contradictions. On prend l'avion, on ne devrait pas. Moi, j'essaie de voyager le moins possible, mais en même temps, on essaie de construire cette économie de l'écologie. De l'écologie, l'oikos, c'est-à-dire de la maison commune. Développer l'imaginaire au service d'une société moins carbonée. L'imaginaire, c'est fondamental. Dessine-moi ta planète. C'est être créatif, faire en sorte de se poser, de comprendre, d'observer, de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer. De cette exposition qui a été faite, Dessine-moi ta planète, a été faite quasiment qu'avec que des choses recyclées. Bas carbone, je ne sais pas, mais très bas carbone, en tout cas par rapport à ce qui aurait pu être fait. Recréer du lien pour une société de partage et de convivialité, réapprendre à se parler, réapprendre à prendre le temps de s'écouter.
Alors c'est ambitieux, tous ces points, tout ce dont on parle depuis le début. Comment est-ce que vous avez travaillé à la préparation pour imaginer des choses qui permettent à tous ces vœux de devenir réalité ? Que les gens s'en emparent, que ça se traduise en mise en mouvement des personnes qui lisent le livre ou qui visitent l'exposition. Comment vous avez travaillé en amont, est-ce que vous étiez seul dans un bureau ou dans votre beau parc, ou est-ce que vous avez travaillé en collectif avec d'autres personnes qui travaillent déjà sur ces sujets-là? Comment ça a été mis au point?
Alors,
tout ça?
Tout d'abord, c'est un travail d'équipe, l'équipe du Petit Prince, mais l'équipe de Dérol, parce que c'est Dérol qui a conçu, créé, imaginé cette exposition. Donc je l'ai fait, moi, de ma petite maison au fin fond du Portugal, dans les rizières, où j'ai relu le Petit Prince, et partager avec mon équipe cette vision et ces postures. Et donc on a une équipe formidable d'illustrateurs, de rêveurs, de bon sens, et puis une équipe très pratique ici qui a réalisé ce qu'on a imaginé avec encore plus d'intelligence et encore plus d'efficacité. Donc c'est un travail commun, d'une 15-20 personnes, et qui a fini par accoucher de cette exposition. Non pas en 9 mois, mais en même pas 6 mois.
Et de ce
moins
livre.
Moins 5 mois. Et de ce livre, et du livret pédagogique.
Oui, c'est ça.
Donc évidemment, le livre avec Actes Sud, c'est une conversation que j'avais eue dans un think tank qui s'appelle Terre Sauvage avec Françoise Nisson, qui en fait partie et qui dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour les 75 ans d'ailleurs du Petit Prince tous ensemble. Et on a réalisé cette exposition, ce livret pédagogique.
Et vous, comment vous vous êtes personnellement intéressé, éveillé aux questions environnementales et écologiques ?
J'ai mal commencé dans la vie, j'étais banquier. J'ai acheté cette propriété avec mon frère par le plus grand des hasards. Je suis rentré dans le potager pour créer ce conservatoire de la tomate à une époque où ça n'intéressait personne. Et mon engagement a été fondé, je pense, sur justement un jour un semencier qui a voulu me demander d'extraire deux noms, Dominique Guillet et Philippe Desbrosses, en disant voilà, ils ne font pas partie de notre paysage. Et je me suis dit que les grands qui voulaient breveter le vivant, c'était une menace pour nous tous. Et puis en même temps, il y avait une société qui produit énormément de tomates, qui pensait que les tomates de toutes les couleurs étaient une... ces tomates de toutes les couleurs ne pouvaient pas exister. Et je leur ai dit, mais écoutez, c'est des tomates de variété ancienne. Ils ont dit non, on fait de la tomate depuis 4 générations, on sait. Et là, je me suis dit que ça veut dire tout simplement que les gens dont c'est le métier ne savent même pas la richesse de leur propre filière. Et donc je me suis dit qu'il était urgent de m'investir dans ces sujets, mais qu'il fallait qu'une société scientifique et pédagogique m'accompagne, et j'ai pu racheter la Maison des Rôles en 2000.
Mais du coup, comment vous vous êtes éveillé aux questions environnementales ?
Est-ce que j'ai eu un maître qui n'est plus de ce monde, oui, que je remercie quasiment tous les jours, Michel Girand, un mathématicien, un poète, qui faisait partie de tous ces... illustres connus et moins connus qui se sont battus pour faire en sorte qu'on soit plus intelligent et plus précautionneux de cette nature. J'ai travaillé avec Yves Paquelet, avec qui j'ai écrit un livre, qui était compagnon de route de Cousteau avec François Sarano, ce plongeur extraordinaire qui nous parle des animaux sauvages et notre rapport.
Qui est dans ce livre,
voilà,
aussi.
Voilà, qui est dans ce livre. Donc, effectivement, j'ai été souvent marqué par des grandes personnalités, Colin Serrault, avec des ordres globales pour un... local pour un ordre global, non.
Oui, c'est quelque chose comme ça. Des solutions...
local pour un désordre global.
Oui, voilà, c'est ça.
Bravo.
Et la belle verte aussi,
et
dans un autre genre.
Voilà. Oui. Et donc, tous ces gens m'ont marqué et je me suis senti, parce que j'ai été élevé aussi en Normandie, dans un potager, dans des fermes, à la laiterie, dans une scierie, dans les bois, à marquer les bois, dans un parc. Mm-hmm. Donc, je me sens bien là et j'ai beaucoup marché dans la nature, dans les montagnes, en Inde, quand j'avais 18 ans. Et donc, je me suis senti plus heureux là. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce chemin, qui n'est pas forcément le plus facile, ou qui n'était peut-être pas le plus attendu pour moi, mais ça ne m'a pas empêché de continuer ce beau chemin.
Voilà, alors je ne résiste pas quand même à vous demander de revenir un petit peu quand même sur l'étape Inde, parce qu'il faut préciser pour l'anecdote que quand nous sommes arrivés tout à l'heure, on s'est donné rendez-vous dans un salon du château de la Bourdésière, et sur la table était ce magnifique livre très ancien du Mahabharata, et vous vous êtes étonné qu'il soit là, visiblement ce n'était pas sa place. Lorsque nous avons fait une heure et demie, deux heures pour parcourir toute l'exposition dans le parc, nous sommes arrivés, le livre était arrivé là sur le banc, et visiblement comme on ne faisait toujours pas assez attention à lui, finalement il s'est ouvert et plein de feuilles se sont envolées, on a dû s'interrompre pour que vous les récupériez. Donc je pense que là maintenant il est sur la table avec nous, et je crois qu'il faut vraiment qu'on en dise quelque chose, parce que visiblement il y a un message à comprendre.
Alors là, c'est un épique indien, c'est un épique formidable qui évidemment raconte la vie avec tout ce que peut représenter ces personnages. Alors moi, évidemment, dans le Mahabharata, c'est Hanuman, je n'ai pas lu le Mahabharata depuis que j'habitais en Inde, mais qui vient sauver, je crois que c'était la princesse Devi, enfin, il faudrait que je le relise.
Moi aussi. Moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai vu par Peter Brook.
Peter Brook, et puis avec Malika Sarabhai, qui a interprété... dans l'interprétation de Peter Brook, là, cette princesse. Je pense que toutes nos civilisations ont des narrations, des épiques, des légendes qui fondent encore une fois notre racine. On s'enrichit beaucoup plus à relire relire notre Bible à nous, ou peut-être la Torah, ou peut-être le Coran pour d'autres, ça nous propulse simplement dans le fait que nous sommes que le produit d'une continuité extraordinaire qui sont nos écrits, nos civilisations, nos architectures, et que de grâce, on ne les détruise pas, qu'on ne les brûle pas. Elles font partie, j'allais dire, de nos piliers. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, toute une génération oublie encore une fois que nous sommes les produits d'une culture, de cultures différentes. Il faut les admettre, c'est l'altérité, mais en même temps, il faut les connaître.
Dans cette préface, non, on en était sur la Bourdaisière.
Ouais,
quelques mots sur tout ce qui se passe ici.
Alors, la Bourdaisière, c'est un lieu laboratoire où j'ai créé il y a près de 30 ans ce qui est devenu le Conservatoire National de la Tomate. Mais c'est aussi un lieu où l'on peut habiter, où vous avez 28 chambres, donc qui permet de découvrir les châteaux de la Loire. C'est au cœur des châteaux de la Loire, entre Tours et Amboise, à 10 km l'un et de l'autre, à quelques encablures de Chenonceau, de Villandry. Et c'est aussi un lieu où, de cet engagement, est né plusieurs projets. La microferme Ferme d'Avenir, qu'on a co-créé dans nos bureaux chez Desrolles et qui a eu sa première vie ici, avant de devenir une inspiration et un modèle de développement de microfermes en France. Le Festival de la Forêt, avec France Bois Forêt et l'ENF, qui a permis à toute la filière de faire la pédagogie de la forêt, du bois, mémoire de l'arbre, et ainsi de suite. C'est aussi le Conservatoire du Dahlia. C'est aussi les caves assez extraordinaires, 2,5 hectares de caves où on peut se perdre, certes, mais en tout cas avoir des réceptions tout à fait admirables. C'est un lieu où on se parie, c'est un lieu où on rit, et c'est un lieu où on se promène dans le parc avec ses 90 hectares clos de murs, mais en même temps, toute la partie de l'exposition est sur une vingtaine d'hectares peut-être. C'est un beau lieu, c'est un château qui a une histoire très belle, qui est celle d'une demeure médiévale, Maréchal de Boussicault, sur lequel a été reconstruite une maison renaissance par la fortune d'une famille Babou de la Bourdaisière qui avait épousé Philibert Babou, qui avait épousé Marie Godin, qui était la propriétaire du château et qui était aussi la maîtresse de François Ier, du pape Clément VII et de Charles Quint. Et donc, cette demeure renaissance ensuite a été le lieu de naissance de Gabriel Destré, plutôt qu'à Coeuvre en Picardie. Puis ensuite, ça a été la propriété de nombreuses illustres personnes du duc de Luynes au duc de Choiseul, qui fait détruire en partie pour reconstruire Chanteloup à Amboise. Et c'est reconstruit au XIXe siècle par la famille Angelier, et donc en humeur néo-renaissance, mais vous avez l'arrière est renaissance, les communs sont renaissance. Il y a encore la partie des douves 14e. Donc c'est une propriété qui est charmante, campée sur sa colline, et avec ses jardins qui vont du médiéval en passant par la Renaissance, en passant par le 19e, et ce parc très beau avec ses essences remarquables. Donc tout ça, c'est la Bourdaisière, et c'est un écrin avec tous ces sujets. Donc l'exposition « Dessine-moi ta planète » arrive à point nommé dans cet écrin.
Dans cette préface, vous écrivez aussi en parlant des Desrolles, parce que si j'ai bien compris, il y avait plusieurs Desrolles. J'aimerais bien que vous nous les présentiez aussi.
Alors, Jean-Baptiste Émile Desrolles, c'est une famille, j'allais dire, d'aventuriers qui ont créé les premiers cabinets de curiosité au 19e. C'est une famille qui vient du 18e. Il y avait une partie qui était des perruquiers de Tournai et d'autres des tapissiers d'Aubusson. Et la crise de ces deux manufactures, j'allais dire manufacture d'un côté et industrie de l'autre, il se passe beaucoup de choses chez nous. Hein, parce qu'on s'est mis devant le château, là où
oui.
Passe un certain nombre de voitures. Où,
pour des expliquer filles. Tout le bruit, là on a des jeunes filles en maillot de sport, qui
oui.
Elles sont des super...
C'est une équipe brillante de handball championne d'Europe. Où,
tout un groupe.
Voilà, il se passe toujours plein de choses.
Oui.
Et donc, on parlait de...
On était sur l'histoire, oui, voilà. Desrolles.
Et donc, Desrolles,
c'est la famille Desrolles.
La famille Desrolles a créé ses premiers cabinets de curiosité, puis a créé le premier programme de l'instruction publique pour les sciences naturelles, à l'époque où les leçons de choses n'existaient pas. Mmh. Ils l'ont diffusé dans le monde entier. Donc, la particularité de Desrolles, c'est un tableau vaut mieux qu'un long discours. Mais ce n'était pas que cela, c'était du matériel scientifique, pédagogique, sur. Tous les sujets, la physique, la chimie, la botanique, le corps humain, les métiers.
Donc des planches en fait.
Des planches, des ouvrages.
Qui allaient dans toutes les...
Dans toutes les écoles du monde entier, dans plus de 150 pays, mais en même temps du matériel muséographique, de taxidermie, de minéralogie, de conchéologie, d'entomologie. Donc c'est une société assez rare, universelle, et qui aujourd'hui a retrouvé toute sa modernité à travers ce que l'on fait nous.
Et François Sarano, donc, qui lui est docteur en océanographie, plongeur professionnel, chef d'expédition.
Personnage extraordinaire.
Ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, entre autres, écrit un texte intitulé « Lettre » dans le livre « Dessine-moi ta planète »,« Lettre à mes colocataires ». Alors, colocataires, trait d'union, terre, T-E-2-R-E. « Lettre à mes colocataires, humains et non-humains ». Et donc, je le cite... Et aujourd'hui, perdus dans nos cités hors sol, égarés dans nos univers virtuels, nous mesurons notre effroyable solitude. Nous réalisons que nous sommes orphelins de votre présence sauvage, imprévisible, enchanteresse. Non seulement nous vous avons éradiqué des champs, des rivières et des forêts, mais nous vous avons effacé de nos mémoires. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et il appelle à retrouver cette conscience flamboyante des autres, de tous les autres, humains et non humains. Revenir à une conscience et à un respect du vivant, c'est une des lignes essentielles qui traversent l'exposition et le livre.
Alors, François Sarano, c'est, j'allais dire, dans ses humanistes, un homme poisson, mais un homme qui nous apprend à parler avec les animaux sauvages. Et quand il décrit sa rencontre avec, en plongée libre avec une femelle requin blanc de 4 ou 5 mètres, ou avec les baleines, ou avec les crocodiles de mer, il nous parle de la façon dont l'animal sauvage vous approche avec respect, en essayant de communiquer avec vous et en vous adoptant. Un moment court ou moins court, et donc il doit y avoir le respect mutuel. Et lui, c'est exactement comme avec votre voisin, qu'il soit d'une autre religion ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut apprendre, comme le petit prince le dit, si bien à s'apprivoiser.
Donc, parmi les auteurs, les excellents qui sont dans ce livre et qui participent, on a Baptiste Morisot, là aussi, grande pointure, Camille Etienne, Charles et Perrine Hervé.
Camille Etienne, jeune activiste formidable.
Oui, qui fait partie de cette nouvelle jeune génération, et beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, hein, parce que j'en ai interviewé plusieurs, là, liées aussi à notre affaire à tous, à la défense pour la reconnaissance du crime d'écocide. Et il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes. C'est un mouvement qui est quand même très...
Rassurant.
Oui, voilà. Charles et Perrine Hervé Gruyer, Jean-Louis Etienne, François Sarano, Colline Serrault, Jean-François Clairvoy. Comment vous les avez choisis, ces auteurs?
Alors, j'allais dire, certains je les connaissais et ont très lentement répondu à l'appel. Jean-François Clairvoy, Charles et Perrine Hervé Gruyer, donc, qui ont créé la première et plus belle ferme, micro-ferme, inspirée par la permaculture au Bec-et-Loin. Jean-François Clairvoy, astronaute. Mais en même temps, Jean-Louis Etienne, qui est un très grand aventurier, j'allais dire médecin, explorateur, pardon. Donc beaucoup, je les connais, Camille Etienne, mais d'autres, je les connaissais moins, mais ils ont aussi été sensibles, et peut-être au Petit Prince, et peut-être à la Maison d'Hérolles, qui leur parle évidemment, parce que d'Hérolles, beaucoup ont été chez d'Hérolles depuis toujours, et été inspirés par... cette maison, et puis Colline Serrault que je connais aussi. Donc voilà, beaucoup de gens que je connais et beaucoup de gens qui ont été sensibles à cette rencontre entre le Petit Prince et d'Hérolles.
Et qu'est-ce que vous leur avez demandé?
Oh, pas grand-chose. Ils écrivent sur quelques milliers de signes sur le sujet qui était l'étape qui nous paraissait être la plus pertinente pour les inspirer, et ils l'ont fait très naturellement et très rapidement.
Ah oui, c'est ça, parce que je me demandais comment vous les aviez associés justement, chacun et chacune, à un thème.
Allô, Anne, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Oui, merci, au revoir. Et le texte arrivait quelques temps après.
D'accord. Je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié qui vous semblerait important?
Venez nombreux visiter Dessine-moi ta planète. Il y aura d'autres expositions dans le monde, elle va être itinérante. Je ne peux pas dire où encore, mais c'est parti. Elle sera reproduite car l'écologie positive est un sujet qui nous concerne tous. Et donc, oui, c'est un sujet majeur porté par deux universalités, culturelle française, Le Petit Prince et des rôles.
Donc une exposition qui est déjà ouverte depuis le 29 juin, qui sera accessible jusqu'au 15 novembre pour cette année. Et pendant 3 ans.
Du mois d'avril au mois de juin. Cette année, c'était plus court parce qu'on a ouvert le jour du Petit Prince Day. Et je remercie à nouveau les gens de la Fondation Saint-Exupéry, toute mon équipe et tous ceux qui ont participé à faire en sorte, les partenaires nombreux qui ont permis à cette exposition d'exister.
Donc c'est au château de la Bourdaisière pour l'exposition, donc à Montlouis-sur-Loire. Je vais dans la description, dans le texte de description du podcast, vous pourrez retrouver toutes les indications et les liens pour aller directement sur le site internet de la Bourdaisière et avoir toutes les informations et voir aussi des images, des photos et pouvoir réserver aussi. Et puis le livre d'Hérole, Le Petit Prince, alors dessine-moi ta planète, c'est publié chez Actes Sud. C'est un beau livre avec de magnifiques images et de très beaux textes. Hein. On l'a compris entre les extraits du Petit Prince et les beaux auteurs que vous avez choisis. Voilà, donc je pense maintenant qu'on a à peu près fait le tour. Donc je vous remercie
merci
beaucoup,
à vous, Anne.
Louis de Breuil, pour cette magnifique visite en particulier à laquelle j'ai eu droit aujourd'hui, qui m'a permis de découvrir ce magnifique endroit et cette magnifique exposition superbe, inspirante, même si le mot aujourd'hui est un peu galvaudé. Là, il est franchement il a ses pleins pouvoirs. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien aussi, parce que c'est une balade qui appelle à se poser, à se reposer. On est pris par tous les sens aussi, hein. On n'en a pas parlé, mais il y a le sens olfactif avec ses essences de bois dans la forêt. On entend des très belles choses, puisqu'il y a des extraits de films, il y a des extraits sonores qui nous expliquent, des extraits du Petit Prince aussi. Et puis l'image, les yeux, parce que le cadre est vraiment superbe. Donc voilà, j'invite nos auditrices et auditeurs, si vous êtes très loin, que vous ne pouvez pas venir à cette exposition, si vous nous écoutez depuis l'étranger, peut-être pourrez-vous acquérir le livre. Là aussi, je vais mettre, comme d'habitude, le lien dans le texte où vous pourrez commander le livre directement en ligne. Et puis sur le site des libraires indépendants. Et puis vous pouvez venir voir l'exposition en Touraine. C'est une belle région. Il y a plein d'autres choses aussi.
Et habiter à la Bourdaisière.
Voilà, en même temps, comme ça, tout est la boucle est bouclée.
Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne continuation surtout. Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.